grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un personnage assez exceptionnel. Il s'agit de Gérard Gartner. Alors, Gérard Gartner, quand je dis que c'est un personnage assez exceptionnel, c'est que on se demande comment, dans une seule vie, on peut faire tant de choses. Gérard Gartner, quand vous l'apercevez, vous apercevez un homme plutôt petit, de ma taille à peu près, c'est vous dire. Enfin, pour ceux qui me connaissent. Avec des yeux d'un bleu étonnant. Et puis, c'est quelqu'un qui sourit, mais qui roumègue, comme on dit à Millau, c'est-à-dire qu'il est, c'est un râleur, quoi, hein, il faut bien le dire. Et je vous avoue que l'interview que je lui ai faite est très courte. Elle dure en tout 13 minutes, je crois. Parce que c'est très, très difficile de faire parler Gérard. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler de lui, qui est modeste. Et, bah oui, il faut un peu lui arracher les mots de la bouche. Alors, cette émission ne va pas forcément ressembler aux autres. Vous entendrez Gérard, et puis, bah, vous m'entendrez un peu beaucoup aussi. Mais allons-y, commençons à écouter Gérard Gartner. Eh bien, bonjour. J'ai en face de moi Gérard Gartner. Ouais. Et Gérard Gartner est Rome Caldera, autant que je sache. Père, ouais. Ta et maman était manouche, j'ai appris, oui. Et je sais que t'aimes pas qu'on le dise, mais t'es un grand sculpteur. Oh. Ah bah oui, quand même. Autant que je sache, t'es un monsieur.
Pas tellement reconnu non plus.
Oh,
pas tellement...
quand même. Quand même, Gérard.
Reconnu par les miens, par ceux de la communauté. Là c'est exceptionnel. C'est, ça prend un bon caractère. Oui, ça a un caractère de reconnaissance, c'est vrai. Là où j'expose. Et, oui, c'est vrai.
Alors, je précise pour les auditeurs que nous sommes toujours au Festival de cinéma de Douarnenez. Et que dans la salle des fêtes, il y a une magnifique exposition avec des peintures de Gaby Riménez, mais aussi les sculptures de Gérard Gartner, et c'est un régal pour les yeux et pour les sens. Gérard, oui. T'es né sur le voyage ?
C'est-à-dire
T'es né,
non.
T'es né sédentaire, bah, toi.
Je suis né dans le 10e arrondissement, c'est un paradoxe en plus, parce que mes parents étaient à ce moment-là aux alentours de d'Aubervilliers, et ça se passait mal pour ma mère au moment de me mettre au monde, quoi. Il a fallu l'emmener à l'hôpital, et d'Aubervilliers, l'hôpital le plus proche et accessible à ce moment-là, je pense, j'en ai pas exactement l'explication, je suis né à l'hôpital Saint-Louis, voilà.
D'accord.
En plein Paris 10e.
Et alors, comment...
Mon existence commençait par...
Comment t'es devenu sculpteur? Parce que c'est quand même pas une chose traditionnelle.
C'est loin de l'être, oui. Bon, c'est en travaillant sur les décharges pour récupérer des différentes choses et gagner ma vie, quoi. Qu'un jour j'ai vu arriver du plastique et que j'ai continué de le déformer dans ma tête avec le chalumeau que je porte, chalumeau et outils des calderas, quoi,
de la marteau, ferraille, quoi.
Voilà, oui. et je l'ai, j'ai emmené ça chez moi, j'ai travaillé ça, je me suis fait créer un style, et 400 années plus tard, j'ai exposé, quoi. C'est, ça a commencé comme ça. Mais auparavant, je faisais de la peinture, quand même.
Ah, d'accord.
Ouais, et là, de laquelle je vivais, je faisais du portrait. J'ai un portrait dans le milieu anarchiste. Donc j'ai peint des gens qui ont une connotation anarchiste. J'ai peint Louis Lecoing, Brassens, différentes personnes.
Bref, t'as toujours trempé dans l'artistique, finalement.
Bah, en quelque sorte, oui. Puis je milite dans l'univers de ma communauté, de notre communauté. Je milite pour l'art, quoi, pour l'art plastique et la culture. La culture, l'art plastique. Le social, je m'en occupe pas. Il y a tellement de gens plus qualifiés que moi pour s'en soucier, là je leur laisse.
Et alors comment tu travailles ?
Je revendique
comment tu travailles ces formes que j'ai énormément de mal à définir, mais tu dis toi-même qu'il faut pas. Alors j'aime bien cette formule. C'est je sais pas. Enfin, en tout cas, tu dis qu'il faut pas laisser la sensibilité. Enfin, c'est pas exactement le terme.
Prendre le dessus dans le.
Oui. Alors que moi, quand je regarde tes œuvres, ça m'évoque des tas de choses. Je peux rêver dessus. Ça m'emmène dans des univers.
Ah ben ça, j'autorise celui qui regarde à se faire son cinéma lui-même, oui, c'est vrai.
Mais toi, quand tu fais, tu te fais un cinéma.
Quelquefois, oui, mais enfin, ça, c'est mon. C'est mon
secret. C'est ta salade.
Voilà, exactement. C'est ma cuisine. Et j'évite d'en parler parce que les gens qui veulent voir comment ça fait, ça n'a pas de sens. C'est de la pièce terminée qui importe.
Bien
c'est
sûr.
C'est comme c'est. Là, et même à la limite, en quoi c'est fait n'a pas. On peut le dire, mais ça n'intervient pas.
C'est ce que ça provoque.
Bah c'est la pièce telle qu'elle est qui est importante, c'est pas, enfin importante,
oui,
qui est significative, quoi, mais pas la matière dont c'est fait, ni me voir la mettre en situation, la forger,
oui.
Le terme, là, c'est de la forge, un peu, c'est le même travail de construction que j'utilise des recettes de forgeron.
Thank you.
bailando. ¡Opa, chupa!
J'ai entendu dire que tu avais travaillé avec César, c'est vrai ?
Non.
Non ?
Non, j'ai des articles de presse avec César.
Ah,
mais
d'accord.
César, non. Non, Giacometti. Enfin, j'ai pas travaillé avec Alberto, mais je l'ai connu.
C'est très bien.
C'est certainement ça qu'a lu.
Ah, peut-être, je sais plus.
Non, César, oui, je l'ai connu, mais sans plus, comme ça.
Et alors, je savais que, je savais pas que tu avais été peintre, je savais que tu étais sculpteur, je savais que tu étais écrivain, entre autres l'énorme pavé sur
Matteo
Maximoff, qui est une somme de travail absolument considérable.
Oui, mais qui n'est pas reconnu non plus. Qui n'est pas reconnu, si. Si, tout de même. Mais il n'a pas l'impact qu'il devrait avoir, ce bouquin. Parce que non seulement c'est la vie de Matteo, c'est ce qu'il a vécu mais c'est aussi tout, à travers lui, tout ce qui s'est passé depuis entre l'après-guerre et l'an 2000, puisqu'il est mort en 99, dans tout ce qui s'est passé pour notre communauté mondialement, tous les congrès à Genève, à Londres, tous les congrès, toutes les manifestations d'importance, il participait à ça. Alors j'étais obligé en parlant de lui, j'ai parlé de tout ce qu'il a vécu, et c'est, ça retrace tout ce qui s'est chronologiquement passé au niveau de notre progression dans le social et dans le culturel, quoi. Il a participé à tous les trucs. On venait le chercher, c'était à partir du moment où il a écrit son bouquin, immédiatement après la guerre, ça a été le tzigane de service, quoi. On est venu le chercher pour ouvrir la première association s'intéressant à nous, les études tziganes. C'est pas lui qui l'a créé, hein. Souvent, il brodait un peu, mais on est allé le quérir pour authentifié, c'était le tzigane le plus connu à l'époque. Voilà.
Oh,
Donc, parmi un tas de choses, Gérard Gartner est écrivain. Et il a écrit, entre autres, un pavé. Quand je dis un pavé, c'est un bouquin de à peu près 500 pages, consacré à Matteo Maximoff, qui a été un de ses grands amis et dont je vous ai parlé déjà un certain nombre de fois. Ces carnets de route de Matteo Maximoff sont un texte singulier à plusieurs égards. D'abord par sa genèse et par sa forme littéraire. En effet, après avoir compilé les notes accumulées par l'écrivain en un style lapidaire tout au long de sa vie, Gérard Gartner les a transcrites et entrelardées d'adresses posthumes à l'ami disparu. Ces adresses posthumes, tirées des souvenirs de Gérard Gartner, jettent un éclairage aussi fervent que sans complaisance sur la figure du premier des Tziganes à s'être lancé dans l'épopée de l'écriture. Il en émerge un portrait poignant, tellement saisissant de vérité que le lecteur est rapidement convaincu que Matteo Maximoff est l'un de ses familiers. Mais ces carnets de route constituent aussi un irremplaçable témoignage historique sur la révolution culturelle vécue par la communauté tzigane au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, notamment au travers de son adhésion massive à l'évangélisme. On peut encore y suivre la transformation du fantasme entretenu par les non-tziganes sur ce peuple mythique. Et enfin, entre magie, religion et raison, tradition orale et écriture, la trajectoire très personnelle de Matteo Maximoff, qui se condense en un seul individu, ses étapes fondamentales de l'aventure humaine depuis son origine. Et en cela, ses carnets de route constituent un document anthropologique d'une valeur inestimable, et peut-être unique en son genre. Et alors, il y a quelque chose qui revient souvent chez toi, c'est notre communauté. Donc ça, ça a l'air d'être très très important pour toi.
Bah je mets ça au service de ce que je fais, je le mets au service de... Je ne mets pas de prix, c'est pour moi, ce n'est pas quelque chose de monnayable, c'est quelque chose, dans mon esprit, c'est pour montrer qu'on est aussi capable... On peut s'insérer dans différents modes d'expression traditionnels pour les Occidentaux. On peut le faire aussi, on peut se mettre dedans, mais je ne le rends pas monnayable, quoi. Enfin, je ne cherche pas à en tirer d'argent, en tirer profit. J'ai jamais voulu. J'en ai vendu quelques-unes quand même, mais pas dans le cadre d'une exposition où il y a le mot tzigane. Tzigane ou rome ou gitan.
D'accord.
Voilà. Dès l'instant où je me sers de... Où le mot tzigane est au générique, quoi, il n'y a jamais eu de problème d'argent. Ça, je le revendique.
Et pourtant, tu revendiques ton appartenance à cette communauté.
Bah oui, bah oui, justement, c'est justement parce que je la revendique que je ne veux pas y mêler le fric.
D'accord.
Que je ne veux pas y mêler de fric, quoi. C'est pas pour... c'est pas pour profiter de mon appartenance que
tu comprends? Oui, très bien.
Je me sers pas de mon appartenance pour faire des sous. Donc je me mets en dehors de ce processus, c'est simplement pour montrer. Les gens qui regardent ça sachent que ça...
C'est qu'un quelqu'un Zigane peut savoir faire ça, pas exactement. Seulement de la musique.
Exactement, oui, il y a ça aussi. La musique, c'est pas mon domaine. Hein.
Et alors, en visitant cette exposition, j'ai découvert, avec une énorme surprise, une affiche où Gérard Gartner est boxeur.
De 16 à 22-23 ans, oui. J'étais amateur d'abord, j'ai fait le championnat de France amateur, j'ai boxé professionnel, oui. J'ai fait un championnat d'Europe en Finlande.
Oui. C'est assez étonnant comme parcours, quand même, de passer de la boxe à la peinture, à la sculpture, à l'écriture.
Oui, peut-être.
Oui, t'es trop modeste, Gérard. Je ne veux pas te lancer des fleurs, mais c'est remarquable. Je ne suis pas modeste,
mais je ramène les choses à leur juste valeur, quoi.
Oui, mais c'est proportion. Attends, c'est pas te flatter, mais moi je trouve qu'elles sont remarquables, tes sculptures.
C'est tant mieux.
Sur cette exposition, il y a aussi un texte qui est signé de toi, où tu déclares que tu veux détruire...
Tout foutre en l'air, tout réduire à néant.
Et pourquoi
Parce que c'est... le pourquoi, il c'est expliqué.
Oui,
non,
mais...
Le texte l'explique.
Les braves auditeurs, ils n'ont pas d'affiche dans le nez. Je préfère le leur lire. D'accord,
si
je préfère, oui.
C'est pas bien, mais... Non, c'est pas...
C'est à l'autre. C'est l'autre,
oui. Ouais. Bon, on peut pas le décortiquer, faut... Ouais.
C'est là.
Vous comprenez mieux maintenant, j'espère, l'impatience d'en finir qui m'anime. Elles seront bientôt libérées, les 250 pièces encore vivantes qui attendent joyeusement le jour J. Si j'entends parvenir... Ah oui, enfin là c'est la motivation, elle apparaît pas vraiment clairement. Hein. La motivation, elle apparaît pas clairement dans le... Elle est éparse, elle est... Puis les citations que j'emploie sont vachement révélatrices de Henri Miller, le renoncement n'a qu'un but, l'accession à un autre niveau.
Bon, eh bien, je te propose, moi je l'enregistrerai à part, tout ce qu'il y a sur l'affiche,
oui,
si tu es d'accord.
Voilà, oui, parce que là on se noie dans
d'accord.
Ok. Alors, toi, j'ai quand même depuis 2 ans répondu à ton truc, là. Hein.
Merci, Gérard.
Je t'envoyais bouler jusqu'à là, mais bon.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Thank you.
Sur la fin de l'interview, vous avez pu entendre que je disais que j'allais lire ce que Gérard Gattner avait écrit pour justifier le fait qu'il allait détruire ses œuvres en 2016. Et alors là, figurez-vous que je l'ai fait, mais avec une très très mauvaise manœuvre, j'ai détruit cet enregistrement. Donc voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous raconter un petit peu plus précisément la vie de Gérard Gattner, parce que, comme je vous l'ai dit au début de cette émission, c'est assez difficile de le faire parler. Et voilà, je vais vous lire un texte qui raconte tout ce que Gérard Gattner est. Gérard Gattner est né le 22 février 1935. Sa famille se trouvait sur un terrain à l'extérieur nord de Paris. L'accouchement se déroulant mal, sa mère dut être transportée à l'hôpital Saint-Louis dans le 10e arrondissement de la capitale. Ce sera donc comme un gadjo, au cœur de Paris, que le Rome Calderache, peintre, sculpteur, écrivain et biographe de Matteo Maximoff, champion de France de boxe poids léger et initiateur de la première mondiale d'art zigan, est venu au monde. Il déclare « Manouche par ma mère, Rome par mon père, je fus élevé par ma famille paternelle. Ce sont avec leur femme, mon grand-père et son frère, arrivés de Russie comme chaudronniers de métier, qui m'éduquèrent et influencèrent mon trajet dans l'existence. Mes parents, occupés à se procurer de quoi subvenir, je n'ai reçu que peu de tendresse de leur part. Je fus jusqu'à 12 ans attaché à mon grand-père plus qu'à mon père et à ma mère que je voyais peu. Peu curieux, voire indifférent à ma lignée maternelle à laquelle je n'ai jamais posé de questions, sur le passé de ma famille paternelle, je ne possède pas plus de renseignements. Bien que tendrement attaché à eux, je n'ai pas en temps voulu questionner mes aïeux. Aujourd'hui, je le regrette un peu. Tous sont décédés. Il y a des choses qui m'ont construite que j'ignorerai toujours. » Voilà ce que dit Gérard, plongé dans ses souvenirs, sans paraître toutefois en souffrir. Tous les enfants aiment jouer, mais lui n'en a pas eu vraiment l'occasion. Lorsqu'il était petit, c'était la guerre, et il fallait, pour survivre, trouver de l'argent. Afin de s'en procurer, Gérard accompagnait les hommes qui allaient, en se cachant, découper les canalisations en plomb pour les revendre au poids chez les ferrailleurs. Gérard doit à son grand-père sa carrière de boxeur. Très jeune, il l'accompagnait, allant rendre visite à Pantin dans une salle d'entraînement, à son ami Théo Madina, ce grand boxeur gitan de renommée mondiale. Gérard deviendra plus tard, sous l'égide de Théo, un assidu du lieu et, le talent aidant, progressera rapidement pour venir champion de France amateur, puis international en équipe de France. L'ancien champion de boxe revient en arrière sur son passé. Il dit « La boxe m'a permis de goûter à une manière de vivre autre que celle de mes oncles et tantes maternelles et paternelles. J'ai vécu dans un univers différent qui m'a permis de rencontrer beaucoup de femmes et de fréquenter de nombreux gadgets de divers milieux. Oubliez la langue romanesque, personne ne supposait que j'étais rome. Personne ne se doutait d'où je venais, même pas mon entraîneur. Durant ma carrière sportive, j'ai gardé secrète mon origine communautaire, non par crainte de quelque chose, mais à la seule fin de me construire par moi-même, en individu indépendant, libre de toute contrainte. » À la même époque, Gérard Gattner, après une rencontre heureuse avec une autre connaissance de son grand-père, le célèbre chansonnier anarchiste montmartrois Charles Davray, très connu à l'époque, Gérard découvre l'art en lui rendant visite chez lui. Il dit « Je me souviens très bien de ma première visite. Il y avait au mur plein de tableaux de maîtres qui me subjuguaient. C'était la première fois que je voyais de pareilles merveilles. J'ai eu envie d'en faire autant. » Comme quoi, un boxeur qui dessine et qui peint, c'est une chose plutôt rare, mais que ça arrive quand même. Gérard décide donc, en plus de la boxe, de se consacrer au dessin, puis à la peinture. Il revient régulièrement chez Charles Davray. Il saisit l'occasion pour faire des croquis des visiteurs assidus du chansonnier, entre autres Louis Lecoing, Georges Brassens, apprenant donc et ainsi à dessiner et à peindre tout seul. Il dit, quand il parle de cette période, « J'aimais bien dessiner les visages, les têtes, faire le portrait des gens. » Et ainsi, jusqu'à la fin de sa carrière sportive, il portraitura nombre de personnalités qui l'impressionnaient par leurs idées libertaires et leur mode de vie indépendant. Quand il en parle, il dit « Lorsque j'ai mis fin à ma carrière de boxeur, j'ai continué un temps la peinture, mais des problèmes avec des clients m'ont coupé l'envie de continuer. » Ensuite, durant une certaine période, Gérard Gartner devint garde du corps d'un ministre de la Culture. Il pratique aussi un temps le métier d'embaumeur, fréquente Alberto Giacometti et, pour gagner sa vie, fait des métiers de gitan, comme il le dit lui-même. Enfin, il se retrouve porteur puis récupérateur au hall. Sur une décharge de Rungis, les camions arrivent et déversent de grosses quantités de déchets de toute nature, et entre autres du plastique. La réalité grise du quotidien fait germer des idées fabuleuses dans le cerveau de Gérard et réveille en lui une créativité de sculpteur. La sculpture, un domaine encore ignoré par lui-même, autant d'ailleurs que par les Tziganes dans les années 69. Un jour, il voit des camions déverser des rebuts de plastique. Gérard sent que la matière lui parle. Il ne se pose pas trop de questions, ramasse le plastique qui ne sert plus à rien, le recharge dans sa voiture et le ramène à la maison. Et chez lui, sans attendre, il chauffe, déforme, incorpore des couleurs, dénature l'aspect originel de la matière, la reforme à son goût, se fabrique une technique et un style personnel qu'il mettra au point pendant plusieurs années, avant d'oser exposer son travail, en 1976. Il est vrai que les œuvres de Gérard Gartner ne font plus en rien penser à des déchets de plastique. Lorsqu'il en parle, il dit « Lorsque j'ai découvert le plastique, je me suis libéré des contraintes représentatives du portraitiste. J'ai abandonné le dessin et ses conventions pour représenter une réalité plus profonde, plus essentielle, sortant de l'ordinaire. On pourrait croire mes formes folles, pourtant ce sont les formes les plus courantes que prend la matière lorsqu'elle passe de l'être au non-être. Et c'est à ce moment que débuta une autre période créative de ma vie. » En même temps, ce fut un retour vers ses origines que Gérard entamait, créant et présidant l'association Initiative Tzigane, afin de concrétiser son désir de faire savoir au grand public qu'il existe des artistes plasticiens tziganes. Gérard est fier de cette première mondiale d'art tzigane qui a eu lieu à la Conciergerie de Paris et qui fut subventionné par le ministère de la Culture et la mairie de Paris. Cette manifestation s'est déroulée du 1er au 30 mai 1985. La culture, et l'art plastique plus particulièrement, sont les thèmes de prédilection de Gérard Gertner. Faire découvrir la potentialité des tziganes peintres et sculpteurs est son cheval de bataille. Mais donnons-lui la parole pour qu'il nous décrive sa façon de créer. Il dit « Quand je travaille, parfois ça ne donne rien. Il fait absolument pour moi que la forme soit organique. Pour qu'elle me convienne, il faut qu'on sente le viscéral. Il me faut le saisir lorsque la matière, une fois chaude, coule, se transforme, un peu comme les concrétions géologiques que le temps a figées. Les formes les plus essentielles, les plus concrètes, sont les coulées comme un corps qui bouge, s'enroule, se crispe, se détend et se rétracte pour repartir dans le même rythme. Retrouver la pulsation de la vie en captant les formes par lesquelles passe tout ce qui a une consistance. L'artiste manie sans problème le chalumeau. Rien d'étonnant, hein, puisque son grand-père était chaudronnier. Le travail du plastique est très dangereux à cause des émanations. Et Gérard ne met jamais de gants ou de masques. Il réalise ses œuvres à l'air libre et ne s'enferme jamais. Il faut aussi ajouter que la sculpture, faite de matière plastique, demande peu d'investissement puisque sa matière première est constituée de déchets. Et récemment, Gérard a entamé une nouvelle période créative, celle d'écrivain. Son premier ouvrage, dont je vous ai donné un peu le contenu, « Carnet de route », qui a été publié en 2006, retrace la vie de l'écrivain rome de renommée mondiale, Matteo Maximoff, qui a été son ami pendant 40 ans. Voilà, pour cet ouvrage, Gérard a reçu le prix Romanes, qu'a fondé lui-même Matteo Maximoff en 1980. Et c'est justement lors de cette remise du prix Romanes au grand, grand guitariste gitan Manitas de Plata, qui a eu lieu l'année dernière au Sainte-Marie en 93. En 93, qu'est-ce que je raconte? En 2013 que j'ai rencontré pour la première fois Gérard Gertner. Et je devais l'interviewer là au Sainte-Marie, et puis ça n'a pas été possible. Et heureusement, je l'ai retrouvé à Douarnenez l'été dernier. Et voilà, grâce à lui, nous pouvons avoir cette émission. Voilà, c'est fini. Je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Je vais donc vous dire, comme d'habitude, la chaudrum. Et une fois encore, puisque j'ai été obligé de beaucoup parler, je ne vais pas vous lire de texte pendant le générique de fin. La chaudrum à tous.